Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bossuma, voici le sommaire. Ituri, environ 2000 familles de déplacés en désespoir sollicitent l'appui des humanitaires et du gouvernement pour leur construire des abris. Leurs conditions de vie se détériorent chaque jour dans leur lieu de refuge. Ils l'ont fait savoir au coordonnateur des affaires humanitaires de l'ONU en visite sur place hier mardi. Il n'y a pas d'eau potable à Kananga depuis plus d'une semaine maintenant. Pour s'approvisionner, des femmes, des jeunes filles et des enfants parcourent des longues distances à la recherche de cette denrée. Reportage à suivre dans ce journal. Et puis, la DINACOPE, Direction de contrôle de la préparation, de la paye et de la maîtrise des effectifs des enseignants et du personnel administratif des établissements scolaires, vient de remettre des motos et des matériels informatiques aux chefs d'antenne de son service. C'est pour améliorer leurs conditions de travail. Pour en parler, nous recevons Adam Mukamulete, directeur provincial de cette structure. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part de l'Ituri. Environ 2000 familles des déplacés qui ont perdu l'espoir de rentrer dans leur village d'origine, dans le territoire de Djougou, ont résolu d'être relocalisées dans leur milieu de refuge. Ils sollicitent l'appui des humanitaires et du gouvernement pour la construction des abris. Cela en vue de leur permettre de quitter les sites où les conditions de vie se détériorent chaque jour, faute d'assistance. Ils l'ont dit hier mardi au coordonnateur des affaires humanitaires des Nations Unies en RDC, Bruno Le Marquis était en visite dans cette entité territoriale. Nous y reviendrons. Entre-temps, au Nord Kivu, des cas de vindicte populaire sont enregistrés presque chaque semaine dans la ville de Goma et ses environs. Cela dure depuis quelques mois, déplore la coordination urbaine de la société civile Force Vive. Le dernier cas en date, lundi 8 juillet à Turunga, dans la périphérie nord de Goma, lorsqu'un homme en tenue militaire a été lapidé par la population, l'accusant d'être impliqué dans des cas de cambriolage. Le président de la société civile de Goma estime que cela dénote une faiblesse du pouvoir judiciaire et du maintien de l'ordre dans la ville. Il appelle toutefois la population à l'apaisement. Marion Gavo, dans ses propos recueillis par Bernardin Nyangui.
Depuis quelques mois, nous assistons chaque semaine à une moyenne de 5 cas de justice qu'on appelle encore vindicte populaire, dont les victimes sont des civils ou un groupe de gangs armés, de policiers ou des militaires en armes. Le fait de se rendre justice soi-même constitue une infraction punissable en droit congolais. Ça s'exprime par des incendies, tabassés, blessés, lynchés, brûlés vifs, directement tués les présumés auteurs par les populations locales en colère. Quand on lynche un bandit devant un enfant de 5 ans, de 6 ans, qu'est-ce que cet enfant garde dans sa tête? Ainsi, malgré la situation d'insécurité, la société civile de la ville de Goma demande aux autorités sécuritaires et de la justice de jouer pleinement leur rôle régalien, aux populations de cesser d'appliquer la justice populaire en référant les présumés auteurs vers la police de proximité.
Retour en Ituri. Le Conseil des confessions religieuses de l'Ituri et CCRI lance un appel aux différentes couches de la population, leur demandant d'aiguiser la vigilance pour améliorer la sécurité dans cette province. C'est en réaction au regain de criminalité dans la ville de Bunia, où 5 personnes sont déjà tuées depuis dimanche par des bandits armés, mais aussi les tensions entre certaines communautés locales. Le coordonnateur de cette structure demande aussi au gouvernement de renforcer la sécurité pour la protection de la population dans cette province. Ignace Bingi le dit au micro de Isaac Remoyope.
Nul n'ignore combien la province de l'Ituri est attristée par les porteurs illégaux des armes à feu et même des armes blanches, notamment en zone minière, où nous notons encore l'activisme des groupes armés étrangers avec les ADF. À cela s'ajoute les combats de manipulation du matal des citoyens par les hommes les plus rusés contre l'Ituri. Nous condamnons avec toute dernière énergie cette façon d'agir en voulant s'attaquer aux faibles citoyens qui cherchent la vie par leur entrepreneuriat réussi. Nous demandons aux autorités d'améliorer l'approche sécuritaire. Nous demandons à toute la population de l'Ituri à dédoubler la vigilance pour l'amélioration sécuritaire, de s'engager pour les sociaux sécuritaires, car ne rien faire pour la sécurité suppose que nous contribuons pour l'insécurité qui est déjà un problème principal des malheurs ituriens.
Merci de nous recevoir à Kananga, chef de Kasaï Central. Ici, nous apprenons que cela fait plus d'une semaine que l'eau de la régie des eaux ne coule pas des robinets. Pour avoir cette denrée, des femmes, des jeunes filles et des enfants s'élèvent tôt avec des récipients en main cherchant de l'eau. François Kadima, reportage.
Avec des bidons et bassins en main, c'est une population qui chaque matin monte et descend dans les rues de la ville cherchant où trouver de l'eau. Un calvaire pour ses habitants de la ville de Kananga, comme rapporte cette dame rencontrée qui indique que des fois, l'eau qui est consommée est impropre, exposant aux maladies.
La régie des eaux
n'envoie pas de l'eau et on ne connaît pas la raison. Trouver l'eau, c'est difficile ces derniers temps. Nous sommes obligés de recourir à une eau qui n'est pas potable avec tous les risques de maladies. Comme l'eau ne coule pas au robinet de la régie des eaux, il faudrait recourir au forage. Pour cette autre dame interrogée, un bassin d'eau se vend à 500 francs congolais. Et pour une famille nombreuse où on a besoin de plus d'eau, il faut débourser 5 000, voire 10 000 francs congolais.
Nous dépensons beaucoup d'argent pour avoir de l'eau ces derniers temps. Moi, j'ai 10 personnes chez moi et si tout le monde doit se laver, c'est compliqué. Ajoutez à cela la quantité qu'il faut utiliser pour la cuisine.
Face à cette difficulté, les habitants veulent voir la régie des eaux rétablir la situation et aussi les autorités de la province s'y impliquer. Du côté de la régie des eaux, aucune communication n'est faite sur ce problème de manque d'eau potable sur la ville. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Situation semblable au Congo central. Une baisse grave des eaux du fleuve Congo est observée dans la ville de Matadi. Conséquence, il y a perturbation dans la desserte en eau potable. Le directeur principal de la régie des eaux, qui l'affirme, indique que les performances des groupes motopompes des surfaces sont réduites et ne parviennent pas à capter une quantité suffisante d'eau à distribuer. Théodore Kabeangandou s'excuse auprès des abonnés de la régie des eaux et les invite à la patience en attendant la fin des travaux. Le directeur provincial de la régie des eaux Congo central explique la situation au micro de Nana Pluriche Mambo.
Il y a 6 mois, nous étions en très très haute eaux où il y a eu des inondations qui nous avaient aussi perturbés. Et là, nous sommes en période de très très basses eaux où les eaux se sont retirées et nos pompes de surface n'arrivent plus à aspirer. Donc les performances sont réduites, ce qui cause un peu de perturbation dans le remplissage de nos bâches parce qu'il faut qu'il y ait de l'eau captée que l'on traite pour avoir suffisamment de l'eau à l'usine et refouler. Et pour que les endroits de Tikinkanda soient desservis, il nous faut avoir 3 groupes motopompes au refoulement, les groupes motopompes haute pression. Et là, on fonctionne difficilement avec ces groupes-là à cause de baisse de performance de pompes dues à l'étiage. C'est comme ça que nous sommes sur le terrain avec les techniciens. Nous sommes en train de suivre de l'eau. Nous avons démonté les machines là où elles étaient. Nous sommes allés solliciter les anciens massifs d'attendre des années 2013 pour pouvoir les installer et permettre à ce qu'il y ait une bonne aspiration. Ce sont des travaux qui peuvent prendre tout au plus 48 heures pour rééquilibrer la situation. Donc nous sommes à pied d'œuvre.
Rendons-nous dans la province du Lualaba. La plateforme dénommée Kazmiya entendait comprendre et agir dans le secteur minier, industriel et artisanal, dénonce l'exploitation minière artisanale illicite à Kakanda dans un rapport d'enquête publié le lundi 8 juillet à Kolwezi. Elle rapporte que la concession de l'entreprise Boss Mining est envahie par des illégaux qui utilisent des engins lourds pour l'exploitation des minerais dont le cobalt. Et les communautés locales ne bénéficient de rien, contrairement aux dispositions du code minier révisé. Kazmiya recommande notamment au ministre des Mines de faire déguerpir de cette concession tous les exploitants illégaux. On écoute à ce sujet Shadrach Moukad, coordonnateur de cette plateforme, au micro de Jean Gandou.
Kazmiya Ashbel dénonce l'exploitation minière illégale par un sujet libanais qui s'est introduit dans la concession appartenant à Boss Mining qui en détient les titres d'exploitation et qui paye des taxes, même les droits superficiels, qui paye des redevances minières, qui paye des impôts à l'État congolais et qui a même signé un cahier des charges avec les communautés riveraines. Aujourd'hui, voir des centaines de camions lourdement chargés sortir chaque jour des sites vers les unités de traitement, polluant l'environnement, alors que la loi congolaise reconnaît qu'au seul Congolais l'exploitation minière artisanale, et aussi voir des engins introduits dans les sites d'exploitation artisanale qui sont aussi aussi prohibé par la loi. Voilà qui nous a poussé à alerter l'opinion publique, à alerter les autorités compétentes pour que ces pratiques d'épillage, ces pratiques de fraude minière soient découragées pour que les minerais du Congo ne soient pas indexés sur le marché international.
Au Kasaï oriental, nous apprenons qu'un nouveau pont a été jeté hier sur la rivière Lubi à Kinakuna, chef-lieu du territoire de Kabeakamwanga. Ce pont de 45 tonnes relie la ville de Mbujimayi au Kasaï oriental à celle de Kananga au Kasaï central sur la nationale numéro 1 en passant par la cité de Kinakuna. D'après l'Office des routes, ce nouveau pont est dans un premier temps opérationnel pour les piétons, les vélos et les motocyclettes. Les motocyclettes, nous y reviendrons. Dans l'actualité aussi, la Troïka politique réaffirme son engagement à stabiliser l'économie congolaise et engager la RDC vers une nouvelle ère de croissance et de stabilité au cours de la deuxième réunion de la Troïka politique tenue hier mardi sous la présidence du ministre des Finances, Doudou Fouamba. Plusieurs indices du progrès socio-économique ont été indiqués. Le ministre du Budget, les vice-ministres des Finances et du Budget, ainsi que la gouverneure de la Banque centrale du Congo, BCC, qui ont pris part à cette réunion stratégique, ont saluer notamment une décélération de l'inflation et une relative stabilité du marché d'échange. On écoute à ce sujet Félicien Moulenda, coordonnateur du CTR, au micro de Michel Kifindangoy.
Aujourd'hui, la réunion a martelé sur l'urgence à mettre en œuvre un pacte de stabilité actualisé, c'est-à-dire des engagements pertinents que les ministres des Finances, les ministres du Budget et la Banque centrales vont prendre pour renforcer la stabilité macroéconomique et garantir, n'est-ce pas, le pouvoir d'achat des populations. Pour la population a besoin de voir dans un premier temps que son pouvoir d'achat soit préservé. Le pouvoir d'achat de la population ne peut être préservé que si l'inflation est maîtrisée, que si les taux d'échange est stable. C'est à cela que s'attaque la troïka politique. Et grâce, je veux dire, à une gestion prudente des finances publiques aujourd'hui, où on fait en sorte qu'il n'y ait pas de dérapage au niveau de la dépense publique, cela a permis de réduire le niveau de liquidité qui est injecté et qui impacte le taux d'échange. Et c'est tout au bénéfice de la population. La population a besoin justement, dans un premier temps, que la stabilité soit assurée. C'est la stabilité qui va garantir que son pouvoir d'achat soit préservé et songer dans un premier temps à augmenter ses pouvoirs d'achat à travers, par exemple, pour ceux qui travaillent, des salaires plus élevés, ainsi de suite.
Province de la Tchopo, une plateforme des scientifiques a vu le jour ce mercredi au centre de surveillance de la biodiversité de l'université de Kisangani, initié par le CIFOR ICRAF dans le cadre de la mise en œuvre du plan quinquennal de gestion de la faune. Cette plateforme regroupe principalement des institutions de recherche dans le domaine de la faune actives dans le paysage de Yangambi. Jacques Moukonkole.
Ce cadre de travail est composé des représentants du CSB, de l'UNESCO ainsi que du CIFOR ICRAF. Il permettra à ces différents acteurs d'échanger des informations et travailler en synergie pour la conservation et la restauration de la faune dans le paysage de Yangambi. Professeur Onesime Mubenga du CSB explique.
En fait, c'est pour éviter une superposition des activités, mais plutôt il faudra tendre vers des synergies. Les synergies permettent d'obtenir rapidement les résultats attendus.
Cette plateforme s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion quinquennale de la faune dans le paysage de Yangambi, validé en 2023, précise Sagesse Nziavake, experte au CIFOR.
Il s'agit en fait des informations qui cadrent avec les activités mises en œuvre par les organisations et institutions aussi qui existent en fait dans les paysages mais qui travaillent sur la faune. Pour permettre les échanges des actions ou des activités de ces organisations et même de la recherche dans le paysage de Yangambi.
Notons que dans le paysage de Yangambi, on trouve la réserve de biosphère, une aire protégée en proie à des menaces dues aux activités anthropiques. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale. Nous sommes en Afrique du Sud. C'est finalement le 16 octobre que débutera le procès de Nosivi Wema-Pisa, ancienne présidente de l'Assemblée nationale sud-africaine, poursuivie pour corruption et blanchiment d'argent. Ainsi en a décidé un tribunal de la capitale sud-africaine lors d'une brève audience mardi. L'affaire a été renvoyée dans la foulée devant la haute cour de Pretoria en raison de sa gravité. Nosivi Wema-Pisa est réprochée d'avoir sollicité auprès d'un soumissionnaire la somme de 4,5 millions de rand dans le cadre de l'attribution des marchés pour le compte de l'armée sud-africaine. L'ancienne ministre de la Défense aurait reçu des pots de vin s'élevant à 2,1 millions de rands entre décembre 2016 et juillet 2019.
L'invité.
Le directeur provincial de la DINACOPE, Direction de contrôle de la préparation de la paie et de la maîtrise des effectifs des enseignants et du personnel administratif des établissements scolaires, vient de remettre des motos et des matériels informatiques aux chefs d'antenne de son service, ceci dans l'objectif d'améliorer leurs conditions de travail. La cérémonie de remise s'est déroulée le week-end dernier à Kindu. Adam Mukamulete, notre invité, répond aux questions de Florence Kiza.
Monsieur Adamu Kamulete, bonjour.
Bonjour, Madame Florence.
Qu'est-ce que vous visez en dotant vos chefs d'antenne tous de moyens de transport?
Si nous les avons dotés les moyens de transport, c'est pour faciliter tout d'abord la mobilité au niveau de leurs antennes. Vous savez que toutes les données que la direction provinciale reçoit proviennent des antennes. Pourquoi? Parce que ce sont les chefs d'antenne qui gèrent les écoles au quotidien. Ils ont la charge de procéder au contrôle physique mensuel chaque mois selon les chronogrammes du 1er au 12 de chaque mois. Ils ont l'obligation de contrôler tous les agents payés dans des établissements payés, les écoles de fin fond de leur juridiction. Alors, pour faciliter leur travail, compte tenu des difficultés, des manques de moyens de transport qu'il était en train d'éprouver, nous avons conçu l'initiative de leur procurer des motos en fait de résoudre ces problèmes de transport.
Une bonne initiative à saluer, mais où est-ce que vous avez trouvé l'argent pour faire ça, étant donné que ce n'est pas votre première action? C'est quoi votre secret?
Le secret est que nous avons conçu cette initiative, nous avons mutualisé les fonds au regard de ce que nous recevons du gouvernement comme frais de fonctionnement, avec les concours de tous les 12 chefs d'antenne et ce que nous recevons à la direction provinciale. C'est un projet qui nous a pris toute une année en raison de mobiliser les fonds pour l'achat d'une moto par mois. Et voilà, aujourd'hui, le rêve est devenu une réalité.
On vous acquise beaucoup. Disons que sur les listings, vous mettez le nom de personnes qui ne travaillent pas au détriment de ceux qui travaillent. Est-ce que ça sera l'occasion pour vous vraiment de faire ces contrôles physiques?
Vous savez, Florence, la DINACOPE est un service technique qui est chargé de préparer les listes de paie des enseignants. Pour y parvenir, on procède tout d'abord au contrôle physique. C'est lors du contrôle physique que les exploitants commis au niveau des antennes qui sont chargés de collecter les informations auprès des écoles. Lorsque les exploitants collectent les données au niveau des écoles, s'ils trouvent qu'il y a un enseignant qui est remplacé par un autre, la mise en jour d'habitude s'est faite en amont par les gestionnaires. Parce que les écoles appartiennent aux conventionnés. Les services de la DINACOPE n'a pas le pouvoir d'insérer les noms des enseignants qui ne sont pas physiquement présents au niveau des écoles. Raison pour laquelle le contrôle physique s'est fait chaque mois au niveau des établissements pour vérifier la conformité des noms des enseignants qui émergent sur le listing par rapport à leur présence physique au niveau des écoles.
Aussi, M. Adamou, les enseignants vous crient beaucoup en vous disant que vous ne mettez pas le montant sur vos listings, ce qui leur crée un peu des confusions. Pourquoi est-ce que vous faites ça?
Oui, c'est une question qui est pertinente. Vous savez que les services de la DINACOPE ne paient pas les enseignants. Les services de la DINACOPE a comme charge de préparer les listes de paie des enseignants et l'outil de travail que nous utilisons, on appelle ça listing de travail. Comme c'est un listing de travail, les autorités hiérarchiques ont jugé bon de ne pas mettre le montant. Pourquoi? Parce que la paie des enseignants est effectuée par les banques commerciales. C'est au niveau des banques commerciales qu'ils reçoivent les listings de paie. Et sur les listings de paie, au niveau de ces banques commerciales, vous allez trouver les montants. Ce qui est vrai, les enseignants sont en train de réclamer des histoires qui sont pertinentes. Pourquoi? Parce que nous prenons le cas de la Caritas qui paie les enseignants via M-Pesa Vodacom. Quand ils reçoivent les messages de la paie, ils ne savent pas combien est-ce qu'on a mis sur les listings de paix. Raison pour laquelle nous avons demandé aux syndicalistes de nous faire des correspondances qui vont relever les réclamations des enseignants dans ce sens-là. Et nous, à notre niveau, nous avons un chef de division chargé de suivi paix qui va passer au niveau des banques pour prendre en compte les réclamations des enseignants.
Monsieur Adamu Kamuleto, merci.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Et par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.
Okapi Sport.
Bonjour, chers amis sportifs. Bienvenue à ce journal des sports sur Radio Okapi, à la présentation Kanishi Mukongo Fanekizi. Le football club féminin Mazembe